France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Faut-il vraiment faire le constat? Depuis des mois, on a l'impression qu'on a déjà tout entendu. Les personnels épuisés, les conditions de travail détériorées, les paperasses qui n'en finissent pas, les effectifs qui manquent, les salaires qui ne bougent pas, les patients. Des heures donc sur des brancards. Les urgentistes ont déjà dit beaucoup de choses, les infirmières aussi, les aides-soignantes aussi, les médecins hospitaliers également. Cette fois dans un grand ras-le-bol, en espérant être entendus collectivement. Ils le disent ensemble, même les doyens, les internes sont dans le mouvement qui se traduit donc dans la rue aujourd'hui avec tous les syndicats de la fonction publique hospitalière, tous les syndicats et tous les métiers. Le grand Big Bang est indispensable, disent-ils. Pression maximale donc sur le gouvernement qui n'a pas qu'un mouvement social à son agenda en ce moment. Emmanuel Macron a donc répondu aujourd'hui. Il a parlé d'un plan d'action renforcé. Il a parlé de décisions fortes, fermez les guillemets, qui seront annoncées jeudi après le Conseil des ministres. Il ne parle pas d'argent, ou en tout cas pas encore. Agnès Buzyn avait donné déjà quelques pistes et on va en parler. Comment sauver l'hôpital public? On essaye de trouver ces pistes-là ce soir ensemble et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Valérie, c'est vous la première. Valérie, bonsoir et soyez la bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute, Valérie.
Bonsoir. Oui, ben, en fait, voilà, je voulais un petit peu exprimer au sein de toutes mes consoeurs et mes confrères orthophonistes notre fatigue, notre découragement, notre colère. Alors, je ne sais pas si on peut parler de burn-out, mais parfois, je pense qu'on n'en est pas loin parce qu'on a envie de soigner tous les patients et de les voir tous, mais c'est juste impossible. Ben, c'est impossible pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on est en sous-effectif. Sous-effectif, pourquoi on est en sous-effectif? On est en sous-effectif parce qu'en fait, l'assistance publique des hôpitaux, dans ce grand hôpital où je travaille, hein, puisque c'est un CHU dans le sud de la France, le plus gros de la région PACA, pour ne pas le nommer, en fait, ils proposent des contrats à durée déterminée, des contrats qui sont renouvelables 3 mois, avec des salaires à 1 400 € pour des orthophonistes qui sortent avec un bac plus que 5. Donc, évidemment, les orthophonistes ne veulent pas venir travailler. Alors, elles ne restent pas. Donc, si on n'a pas d'orthophoniste, on n'a pas de terrain de stage pour former les orthophonistes, évidemment, de surcroît. Et puis, ben, tout ce qui se passe à côté, ben, c'est tout simplement l'impossibilité d'aller voir tous les patients, hein, dans un grand hôpital qui compte à peu près 1 800 patients. Hein. Voilà, donc trop de patients. Donc, obligés de hiérarchiser les demandes, les médecins n'osent même plus faire des demandes, alors qu'on sait très bien que l'HAS préconise la vue des patients le plus tôt possible après un AVC, en post-AVC, pour des troubles de la déglutition, pour des patients qui sont mutiques. Voilà, et puis surtout, ben, pas de matériel. Alors, ben, des vieilles chaises qui datent de l'ouverture de l'hôpital, c'est-à-dire 1973. Pas d'ordinateur, on doit pleurer en permanence, on doit envoyer des mails qui nous prennent du temps, et du coup, ben, on peut absolument pas voir les patients. Voilà. Alors après cette colère, après un tas de mails, on a réussi à obtenir des créations de postes, hein, mais qui vont venir, qui sont toujours pas là. Mais en attendant, nous, on s'épuise et on n'a pas envie d'arrêter parce qu'on aime notre travail et on a envie de soigner ses patients.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Valérie, merci pour cette entrée en matière qui pose bien le problème et un témoignage dont on retrouvera probablement certains échos dans les témoignages qui suivront au téléphone sonne pour discuter ensemble ce soir. Anne Léger, là, bonsoir. Ah. Vous êtes représentante de la coordination du collectif Interhôpitaux. Vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Et Frédéric Pierru est avec nous aussi. Bonsoir, monsieur Pierru.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, sociologue, chargé de recherche au CNRS, spécialiste des politiques de santé. Vous avez notamment écrit La casse du siècle, c'est aux éditions Raison d'agir. Comme entrée en matière, je vais vous interroger l'un et l'autre. Anne Léger, ce que raconte Valérie, votre consoeur orthophoniste, j'ai l'impression que non seulement vous l'avez probablement déjà entendu, mais elle résume au fond à elle seule et avec sa spécialité l'une des raisons pour lesquelles on vous a tous retrouvés dans la rue cet après-midi, non ?
Voilà, je crois que ça résume assez bien le caractère d'urgence et de on est arrivé à un point de rupture en fait dans le fonctionnement de l'hôpital public, et je crois que c'est ça qui a animé tous les gens qui sont descendus dans la rue aujourd'hui ou ceux qui étaient encore à l'hôpital, hein, parce que
bien sûr,
ils étaient assignés,
bien
ils
sûr.
Étaient au travail. Mais là, on a vraiment l'impression que on est étranglé et que ça va plus pouvoir. Il y a un point de bascule. On va pouvoir aller au-delà de ça.
Et est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous avez entendu Emmanuel Macron comme moi, vous avez entendu qu'il y a eu des pistes données par Madame Buzyn un peu précédemment, est-ce que vous avez le sentiment que la mesure est prise? En gros, j'ai envie de dire, est-ce que vous faites peur, vous, les blouses blanches, en ce moment, à ce gouvernement? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir ce pouvoir-là, en ce moment?
Alors, je suis pas sûre que initialement, en tout cas, on faisait peur, parce que si on regarde un petit peu, ça date pas d'aujourd'hui.
Oui, oui.
Ça fait longtemps que
à l'hôpital, c'est en annexe, ça se compte.
Voilà, on alerte, et c'est finalement l'accumulation alors qu'il y a des alertes, c'est cette espèce d'accumulation de colère et de ne pas se faire entendre qui d'un seul coup là explose complètement.
Claude Pierru, est-ce qu'on dit qu'on est dans une situation assez inédite au fond, parce que on le disait, toutes les professions dans la rue, c'est tout de même très rare, voire rarissime. On a entendu le témoignage de Valérie qui peut servir d'exemple, qui parle de hiérarchiser les demandes, qui parle de choses aussi basiques que des chaises qui datent de 1973. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, qu'on est aujourd'hui à ce point de rupture-là dans l'hôpital public?
Bon, j'ai envie de vous dire d'abord que moi, ce qui me surprend, c'est la surprise du gouvernement, en fait. C'est-à-dire que quand vous travaillez depuis 15 ans sur l'hôpital, que vous regardez toutes les études officielles, notamment celles qui sont produites par la DARES, du ministère du Travail, quand vous regardez l'évolution du taux d'absentéisme, du taux de turnover, du taux de vétusté croissant, des locaux, des établissements hospitaliers, de l'effondrement de l'investissement hospitalier. Je n'arrive pas à comprendre que le gouvernement découvre seulement maintenant, effectivement, la crise hospitalière. Cette crise, en fait, est latente depuis 10 ans. Au moins, je dis depuis 10 ans au moins, et ça fait le lien avec la dernière grande mobilisation qu'il y a eu pour l'hôpital, c'était en 2009, souvenez-vous, c'était au moment de la réforme dite Bachelot, hôpital patient santé territoire, où on avait vu, là encore, et c'était une première, donc là c'est la seconde, tous les personnels hospitaliers, c'est-à-dire les grands patrons hospitalo-universitaires parisiens, les directeurs d'hôpitaux, les infirmières, les aides-soignantes, etc., défiler dans la rue. Donc, je dirais que cette crise n'a rien de nouveau. C'est que depuis 2009, on n'a absolument rien fait pour la juguler, pour y remédier. Au contraire, on a serré l'étau budgétaire sur l'hôpital. Et effectivement, on arrive à en bout de course, quoi. Mais c'est une crise qui remonte à loin.
Mais Frédéric Pierru, on entend le diagnostic, en fait, qu'on entend. Vous le disiez effectivement depuis longtemps. Si on essaye de parler de traitement, est-ce que vous avez le sentiment que la prise de conscience, au moins, même si vous le dites, vous avez une surprise de cette prise de conscience qui est tardive, est-ce que la prise de conscience, selon vous, est à la hauteur des moyens dont l'hôpital a besoin aujourd'hui?
Si vous voulez, il y a un problème de court terme et un problème de long terme. Le problème de l'hôpital, en fait, le cœur du réacteur de la crise hospitalière n'est pas à l'hôpital. Il faut le savoir, il est en amont de l'hôpital et en aval de l'hôpital. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui cause beaucoup de mal à l'hôpital, c'est la désorganisation de la médecine de ville. Voilà. Et on l'entend avec les déserts médicaux, avec la banalisation des dépassements d'honoraires, au fait que depuis 2002, les médecins libéraux ne sont plus astreints à faire des gardes, donc d'assurer la permanence des soins. Donc évidemment, il y a toute une frange de la population qui se déporte vers les hôpitaux. Puis en aval des hôpitaux, il y a eu la crise des EHPAD, on s'en souvient, l'année dernière, effectivement, avec des établissements sous-médicalisés où parfois les personnes sont maltraitées et dès qu'elles ont un problème de santé, on les envoie dans les urgences des hôpitaux. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, effectivement, il va falloir trouver des solutions à court terme et notamment de l'argent et des moyens financiers et humains pour l'hôpital, mais que à long terme, la résolution de la crise hospitalière passera par l'organisation d'un vrai service public de la médecine de proximité en amont et d'un secteur médico-social correctement financé en aval de l'hôpital.
Anne Léger, vous allez réagir à ce que dit Frédéric Pierru. On retournera au standard dans un instant. Vous pensez effectivement vous aussi. D'abord, c'est une refonte maximale qu'il faudra faire, et surtout qu'il faut soigner l'amont et l'aval pour pouvoir soigner l'hôpital.
Oui, je voulais souligner, parce que c'est vraiment important, ce mouvement, en fait, c'est vraiment un mouvement collectif, c'est-à-dire que c'est vraiment toutes les professions, et peut-être il y a ça aussi un petit peu qui est nouveau, qui d'un seul coup explose, c'est que finalement, jusqu'à présent...
Vous êtes très corpo, très segmenté d'habitude.
Voilà, en fait. Et là, d'un seul coup, c'est peut-être ce qui montre aussi le niveau d'urgence, c'est que absolument tout le monde, parce que tout le monde, au final, est tenu par son attachement aux soins et à l'hôpital public, et bien d'un seul coup, tout le monde se met ensemble en se disant « c'est plus possible ».
Alors, possible. Sur ce que disait Frédéric Pierru à l'instant, soigner l'hôpital, c'est soigner l'amont, c'est soigner l'aval aussi, c'est-à-dire la médecine de ville et aussi l'après les EHPAD.
Alors, c'est un peu le même principe qu'aux urgences, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, bon, il y a un diagnostic, il y a posé le diagnostic, et puis après, il faut quand même maintenir les constantes en place, c'est-à-dire que si quelqu'un est en train de perdre du sang de façon très aiguë, il va falloir commencer par arrêter l'hémorragie. Mmh. Il faut traiter en urgence l'hôpital, et c'est vrai qu'il y a aussi des réflexions qui sont déjà parties, des plans qui sont déjà partis, mais qui vont mettre beaucoup plus de temps. Là, si on ne fait rien en urgence, on va droit à la catastrophe.
Radia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors oui, j'écoute un peu ce que vous dites et je voudrais rebondir sur le fait qu'effectivement, il y a un mouvement général. Mais il faut aussi savoir que dans l'hôpital, il y a aussi des services administratifs. Il y a des services qui sont des services d'admission, qui sont des services RH. Et ces services sont aussi en souffrance car ce sont des services où il y a beaucoup d'arrêts maladie, il y a des conditions de travail qui deviennent de plus en plus dures. Et voilà, donc je voudrais aussi qu'on en parle parce que l'hôpital, c'est tout le monde. Et on parle beaucoup des soignants, des infirmières, des patients. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, à côté de ça, il y a d'autres services et qui sont aussi en souffrance. On travaille dans des conditions très difficiles, comme on le disait tout à l'heure, avec du matériel qui n'est pas forcément en très bon état. Et ce sont des patients qui sont agressifs envers des gens parce qu'ils manquent du personnel aux admissions. Pas de confidentialité quand on reçoit des agents pour leur carrière professionnelle. Et je voudrais aussi qu'on associe le personnel autre que soignant, parce que c'est important. Et l'hôpital, c'est un tout.
On a compris ce message, Radia. Merci beaucoup de votre intervention, Anne Léger. Oui, bien sûr, elle a raison, Radia. Oui. Le bout de la chaîne aussi. Et y compris la colère du patient, parfois, dont elle parle, l'impatience, etc. Ce sont les services administratifs derrière.
Alors, il y a les services administratifs, il y a les services aussi de logistique. Mm-hmm. On a besoin de draps, de blouses. Voilà. L'hôpital, c'est une très grande maison. C'est une maison qui est complexe. C'est vrai qu'elle est assez lourde. C'est une logistique qui est assez lourde. Mais c'est une maison qui craque de partout.
On est content de pouvoir dire à Radia qu'elle est comptée aussi dans votre colère. J'espère qu'elle l'a entendu en tout cas de votre part. Jean-Emmanuel, bonsoir.
Bonsoir. Je vous remercie de me laisser la parole ce soir. Je vous appelle parce que je suis infirmier depuis 36 ans. Je vais pas vous rebattre les oreilles avec les conditions de travail parce que vous avez pas mal entendu. Ouais. Juste pour l'anecdote, dans notre équipe, on est 8, entre octobre et novembre, on a eu 4 arrêts maladie de burn-out, plus nos psychiatres qui travaillaient sur 3 sites différents et que je salue et qu'elle se repose. Moi, je voudrais juste témoigner, il y a à peu près 25 ans, au début des années 90, je suis allé en vacances en Dordogne et j'ai eu un petit problème de santé et je suis allé aux urgences dans un petit hôpital qui s'appelle à Sainte-Foy-la-Grande, qui était vraiment très des collègues très sympas, nickel, vraiment du matériel très 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 bon. Et là, j'apprends qu'effectivement, la commune et les soignants se battent pour garder leur hôpital. Et naturellement, l'hôpital a fermé. Et là, je vois dans les propositions de Madame Buzyn qu'elle veut ouvrir des hôpitaux de proximité. Alors là, je comprends pas, on marche sur la tête, parce que dans les années 90, il y avait ces hôpitaux de proximité. Ils ont tous été fermés. Et maintenant, on veut en ouvrir d'autres. Alors, est-ce qu'on va redépenser de l'argent pour ouvrir d'autres bâtiments? Est-ce qu'on va rouvrir les hôpitaux qui ont été fermés? Je pense que gouverner, c'est anticiper. Et là, moi, j'ai pas compris cette fermeture d'abord, et puis que Madame Buzyn veut réouvrir après, faire la même chose de ce qui se passait il y a 25 ou 30 ans.
Merci Jean-Emmanuel. Frédéric Pierru, est-ce que on est en train de revenir en arrière sur certaines choses? C'est ça que dit notre ami Jean-Emmanuel?
On revient pas du tout en arrière. C'est-à-dire que effectivement, la France est dotée d'un parc hospitalier relativement dense à partir des années 60, et en quelque sorte, on voulait avoir un hôpital qui faisait tout à côté de chez soi, quoi. Voilà, avec les urgences, avec toute la logistique qui va derrière, le plateau technique, etc. Non, c'est pas du tout le projet de Madame Buzyn. C'est pas du tout de revenir en arrière. C'est quand elle dit les hôpitaux de proximité, c'est d'assurer, je dirais, les soins de premier recours, la gériatrie. mais pas du tout, si vous voulez, de mettre un CHU dans chaque commune. Hein. D'ailleurs, la logique des groupements hospitaliers de territoire est exactement contraire, c'est-à-dire que c'est une concentration des moyens techniques et des soins les plus spécialisés dans les CHU, et puis effectivement une gradation, ce qui peut se discuter d'ailleurs, hein, une gradation des établissements en fonction du degré de gravité des patients. Donc non, c'est pas un retour en arrière, c'est la continuation d'une restructuration hospitalière qui a démarré dans les années 90 et qui vise à concentrer tous les moyens techniques et les plateaux techniques les plus spécialisés sur les plus grosses structures.
Anne Léger, quand on entend notamment ce que disait Agnès Buzyn, vous disiez qu'on a besoin d'un traitement rapide et efficace, une forme de traitement de choc comme on l'a beaucoup lu dans la presse. Quand elle parle d'une enveloppe financière allouée aux hôpitaux qui augmentera à partir de 2020, quand elle parle de rendre plus attractifs les carrières hospitalières, notamment d'augmenter de 300 euros les paramédicaux, parce que c'est dans ces directions-là que, semble-t-il, on va, est-ce que ça vous semble un début ? Cautère sur une jambe de bois, puisqu'on va filer la métaphore hospitalière.
Alors, jusqu'à présent, hein, pour l'instant, dans toutes les discussions, on n'a pas d'augmentation du budget global de l'hôpital. On réalloue des sommes, et comme on est à enveloppe fermée, on déshabille Pierre pour rhabiller Paul. Hein. Donc, la demande qui est faite, justement, c'est que cette enveloppe, il y ait du mou qui soit relâché pour qu'on puisse, justement, augmenter véritablement le budget.
Mmh. Et mais donc là, vous n'en avez pas la certitude, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on y va, nécessité, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, notamment, d'ouvrir ces enveloppements, est-ce que vous avez l'impression qu'on y va ? Qu'est-ce que vous entendez
jusque-là ? Là, on attend. Hein. Voilà. Là, on attend. Je crois que ça va être difficile de dire pour l'instant.
J'entendais le professeur Rémi Salomon ce matin chez vos confrères de LCI qui rappelait, c'est vrai, j'avais pas fait le lien, mais qui rappelait que le président Emmanuel Macron avait dit que la règle des 3% au niveau macroéconomique était une règle du siècle passé. Mmh. Et c'est étonnant parce que à l'intérieur du pays, quand il s'agit de l'hôpital, la règle d'or devient intangible. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, parce que il faut rappeler effectivement que les dépenses hospitalières augmentent, elles ne diminuent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'elles augmentent de 2,1% là cette année. Mais sauf que, si vous voulez, pour rattraper tout le retard notamment de l'investissement dans le secteur hospitalier depuis 10 ans, il faudrait un ONDAM hospitalier à 4%. Mmh. Là, on demande au contraire à l'hôpital de faire
l'ONDAM,
une économie
d'un milliard
d'euros.
Donc l'ONDAM, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Qui se répartit en diverses enveloppes. Et à l'intérieur de l'ONDAM général, donc de ce budget de l'assurance maladie, vous avez le budget hospitalier. Donc il augmente de 2,1%, sauf que, je vais pour vos auditeurs, pour bien faire comprendre le problème, c'est qu'il y a un problème, par exemple, ce qu'on appelle techniquement le glissement vieillesse technique. Ça veut dire que les gens vieillissent dans les hôpitaux. Mmh. D'ailleurs, ce qui pose un vrai problème avec l'intensification du travail, puisque, évidemment, comme le personnel soignant vieillit, il supporte de plus en plus mal des conditions de travail qui se dégradent. Mais d'autant plus, et ces personnes évoluent dans les grades. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, en fait, ça coûte de plus en plus cher aux hôpitaux. Donc, en fait, si vous voulez, l'évolution naturelle des coûts hospitaliers n'est pas couverte par les 2,1% de l'ONDAM hospitalier. Donc, qu'est-ce que font les hôpitaux ? Ils s'endettent. Et puis, alors après, on dit aux hôpitaux, vous avez 30 milliards d'euros de dette. Oui, c'est en quelque sorte l'État qui a créé la dette des hôpitaux en n'investissant pas suffisamment dans les hôpitaux. Vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument.
Et maintenant, on dit aux hôpitaux, vous êtes surendettés.
Et probablement pour aller dans votre sens, Frédéric Pierru, je voudrais qu'on écoute Simon qui nous attend au téléphone. Bonsoir, Simon.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors, je vais apporter un témoignage. Donc, moi, je vais quitter mes fonctions de chef de service dans un hôpital parisien dans quelques semaines, complètement écœuré, fatigué. Et l'essentiel de mes motivations pour partir, d'être depuis une dizaine d'années maintenant en permanence tiraillé entre mes valeurs, mes aspirations, ce pourquoi j'ai fait ces études et choisi de travailler à l'hôpital public, et les exigences d'une administration qui, depuis une dizaine d'années, très clairement, a pris le pouvoir dans les hôpitaux et nous fait vraiment travailler, quand on a un poste d'encadrement comme ça, hein, d'un service, travailler comme des chefs d'entreprise. Vous seriez étonné de voir à quoi ressemblent les réunions de service, les réunions de pôle, où il y a beaucoup de diagrammes, on nous demande de l'efficience, hein, on n'est plus du tout dans la qualité de soins. Ça fait des années que les hôpitaux ne font plus de qualité de soins. Heureusement que la population ignore la réelle les réelles conditions de travail, parce que sinon, il serait extrêmement inquiet. Les patients aujourd'hui dans les hôpitaux publics, malgré l'investissement des soignants, des médecins, sont en danger. La qualité de soins est extrêmement préoccupante, et quand on est en position de diriger comme ça, d'être en responsabilité, eh bien on est vraiment obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire.
Par exemple, Simon, donnez-nous un exemple. Quand vous dites que vous êtes tiraillé entre votre éthique de médecin et ce qu'on vous oblige, que l'administratif au fond vous oblige à faire, donnez-moi un exemple.
Ah bah le truc le plus bête, c'est par exemple on est valorisé quand on fait sortir les patients vite. C'est-à-dire que, par exemple, un patient, si on peut le faire sortir en 2 jours plutôt qu'en 5, c'est-à-dire accélérer les soins, eh bien, on a un bon point, si vous voulez. Ça marche un peu de cette manière-là. Il faut absolument avoir des lits en permanence remplis. C'est très important d'être à flux tendu sur les lits. Vous vous faites taper sur les doigts si, par hasard, vous avez un lit qui reste vacant quelques jours. Tout ça dans une indifférence administrative... qui est vraiment effrayante, qui vraiment la population aujourd'hui ignore ça, heureusement, mais on est vraiment mis dans une position de chef d'entreprise à accompagner les demandes de la direction qui cherche sans arrêt à faire des économies. Les postes, on avait une collègue orthophoniste qui témoignait en début d'émission, les postes de kiné, c'est la même chose, les postes de kiné ont disparu, ou ont en tout cas fondu comme neige au soleil dans une grande majorité d'établissements parisiens, et surtout, vous n'avez pas le droit de protester. C'est une omerta complète dans ces hôpitaux. Il y a un bouquin qui s'appelle Omerta à l'hôpital que je vous recommande, qui est extrêmement illustratif. Et donc moi j'ai décidé que il était temps pour moi de quitter ces fonctions qui m'exposaient beaucoup trop, à la fois à titre de ma santé et également parce que je voyais bien que je n'y arriverais pas. Et quand j'entends un de vos invités disait qu'il était surpris de la surprise du gouvernement, je le rejoins tout à fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Est quelque chose qui est prévisible depuis 15 ans. Il y avait le numéro 15-20 ans et je suis ravi du mouvement. J'étais à la manifestation cet après-midi. C'était vraiment impressionnant, cette mobilisation est assez exceptionnelle parce que les médecins, les soignants manifestent peu. Mais effectivement, je crois qu'on est au point de rupture et que les hôpitaux vont extrêmement mal. Et c'est pas les petites mesures annoncées, par exemple, je pense aux mesures de Mme Buzyn en septembre sur les urgences, qui vont changer quoi que ce soit. C'est effectivement un coût de milliards qu'il faut maintenant raisonner. Je recommande à vos auditeurs d'écouter le sketch de votre chroniqueuse Nicole Ferroni, qui a fait quelque chose de très bien début septembre au sujet des urgences, avec des verres d'eau et des carafes. Je vous recommande vraiment de regarder ça, c'est assez fantastique.
On ira réécouter Nicole. Merci beaucoup pour ce témoignage. Simon, il y a un autre auditeur qu'on va prendre dans un instant, qui s'appelle Philippe, qui est aussi démissionnaire Anne Léger. C'est des exemples qu'on voit beaucoup.
Oui,
ça,
oui.
Des exemples comme celui de Simon.
Je pourrais en rajouter. Hein, je suis dans un service qui s'occupe d'accidents vasculaires cérébraux. Tous les jours, j'ai le SAMU qui m'appelle. Vous demandez qu'est-ce qui nous met en porte-à-faux vis-à-vis de nos valeurs. Et ben voilà, les patients sont dans les lits, on n'a pas de place. Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait quand on a le SAMU qui nous présente une jeune femme de 16 ans qui a fait un accident vasculaire cérébral? On sait que nos traitements vont lui sauver la vie, vont l'empêcher d'être handicapé. Ben on pousse les murs, on pousse les patients, on fait sortir à toute allure.
Puis-je rajouter quelque chose?
Allez-y, j'allais vous donner la parole, Monsieur Pierre.
J'entends quand même la tonalité de vos auditeurs, qui est quand même une tonalité colérique, en tout cas. On sent du ressentiment et de la colère. Et il y a des études qui ont été menées au niveau international, mais aussi au niveau français, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, la presse s'alarmait d'un certain nombre d'études qui montraient la progression du vote Rassemblement National. Au bas de la hiérarchie soignante. Si vous voulez, ces études montrent en fait que plus vos conditions de travail se dégradent, moins vous avez d'autonomie dans votre travail, ça provoque deux choses, deux conséquences politiques ou deux attitudes politiques: la passivité civique, c'est-à-dire en gros la montée de l'abstention. La passivité, et d'autre part, le vote autoritaire. C'est-à-dire que, il faut savoir que la crise de l'hôpital a des effets politiques aussi. C'est-à-dire que les gens qui subissent des conditions de travail déplorables vont développer des attitudes politiques qu'on retrouvera dans les urnes et que nos décideurs politiques déploreront aussi. C'est ça le grand paradoxe. C'est-à-dire,
Pardon, voilà. Monsieur Pierrot, et c'est peut-être aussi pour ça que le gouvernement semble-t-il s'en saisir. En tout cas, qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être annoncées après le Conseil des ministres mercredi. Quand votre collègue Anne Léger dit c'est pas par mesurette, c'est à coup de milliards qu'il faudrait y aller, est-ce que vous l'avez chiffré, vous ? Est-ce que vous pouvez dire, vous, devant Agnès Buzyn, voilà exactement ce qui pourrait au moins faire respirer l'hôpital ?
Alors, la demande, hein, c'est ce qui avait été présenté, c'est-à-dire de pouvoir relâcher ce garrot et au moins ne pas avoir, alors c'est un tout petit peu technique, mais donc un ONDAM, c'est-à-dire un objectif qui soit en diminution.
Objectif
mais,
national des dépenses d'assurance maladie, je répète pour les gens qui nous écoutent.
Et qui puisse au moins venir d'abord, petit 1, être le même que l'année dernière, voire même être plus élevé dans la répartition entre l'hôpital et la ville.
Aligné même, ce que j'ai cru lire, exactement. C'est qu'il fallait qu'il soit aligné sur la progression des dépenses de santé en ville, en gros. Donc ça fait plus de 2,4%.
Exactement. Eh ben c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je crois que, alors c'est vrai que il y a une évolution. Le personnel, c'est 60% à peu près de la charge des dépenses des hôpitaux. Donc bien sûr, il y a une évolution naturelle des coûts de ce personnel. Il y a aussi, il faut pas l'oublier, quand même la population qui vieillit et donc avec qui a de plus en plus de besoins de soins. Et puis il y a aussi des évolutions techniques. Puis il y a aussi des évolutions sociétales. C'est-à-dire que bon, je suis un peu vieille, mais pas très très vieille.
Non, pas trop.
Et quand j'étais interne, on avait encore des salles avec 6 patients juste séparés par un rideau. Plus personne ne veut être hospitalisé comme ça à l'hôpital, ça paraît impossible. Ben, ça, forcément, c'est des investissements. Hein. Avoir des chambres seules, avoir des choses qui respectent l'intimité des patients, c'est des investissements.
On a entendu notre ami auditeur tout à l'heure qui avait décidé de cesser d'être chef de service. Je voudrais qu'on écoute Philippe à la suite. Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Bah, je suis. Bah, merci de prendre mon appel. Je travaille dans un hôpital public périphérique et j'ai été chef de pôle pendant 7 ans. C'est-à-dire que j'ai accompli à peu près 2 mandats, sauf que, bon, effectivement, mon deuxième mandat a été écourté par ce qu'on appelle un épuisement professionnel, un burn-out. Lié, je dirais, effectivement, à cette nouvelle gouvernance hospitalière. Et il est vrai que pour apaiser les tensions qui étaient de plus en plus vives dans notre établissement entre le personnel soignant et la direction, l'ensemble des chefs de pôle avaient souhaité, plutôt que de démissionner, de travailler de concert avec une direction pour améliorer cette gouvernance et redonner du pouvoir, effectivement, aux soignants et au personnel, enfin, aux soignants et aux médecins. Au fil du temps, bah, effectivement, hein, les projets de nouvelle gouvernance ont été étiolés, pervertis par une direction qui n'en a fait ce qu'elle a voulu, je dirais. À tel point que bon, même des audits de qualité de vie au travail étaient retoqués par l'administration du fait de résultats catastrophiques et restés de ce fait confidentiel, quoi. La délégation de gestion, pour moi, en fait, pour les médecins, est une poudre aux yeux qui permet le plus souvent, je dirais, la direction de désigner des boucs émissaires à des mauvais résultats. Et le seul cap actuel, je dirais, dans les hôpitaux, c'est pas le cap qui est donné spécialement par la direction, mais sûrement par le ministère, hein, et l'amélioration de la marge brute. Au diable, je dirais, la qualité des projets médicaux qui sont pas sortis d'un business plan qui permettent de faire des bénéfices, quoi. Alors moi, inquiet, effectivement, quand je vois des projets d'intéressement au service hospitalier. Si cet intéressement ne repose que sur des résultats, je pense qu'effectivement, les seuls résultats que et les seuls bénéfices qu'on souhaite effectivement obtenir, c'est d'un intérêt pour les patients, quoi.
Ouais.
Et je suis très content, effectivement, d'avoir quitté...
Rapidement, pardon, Philippe.
Ouais, je suis très content d'avoir quitté mes fonctions institutionnelles pour ne me consacrer qu'aux malades.
Et visiblement, voilà. Vous n'êtes pas le seul. Merci beaucoup pour votre témoignage, Philippe. Frédéric Pierru, là-dessus.
Oui, c'est important. C'est un point très important qui vient. Parce que j'ai un peu peur quand même que le piège se referme sur le corps médical. C'est-à-dire qu'en 2009, la technostructure hospitalière, et notamment l'élite du corps des directeurs d'hôpital, a voulu occuper le cockpit tout seul. D'accord ? C'était « il fallait un patron à l'hôpital ». C'était ça, le maître mot de la réforme Bachelot. Et puis, bon, ils se sentent un peu seuls dans le cockpit. Même, on se demande s'il y a encore quelqu'un dans le cockpit, en fait. Hein. Bon. Et donc, l'intention, ça serait de dire, ben, on va réassocier les médecins. Hein,
un les peu fameuses plus délégations de gestion.
Voilà, un peu plus à la décision. Mais dans le contexte actuel budgétaire, ça veut dire qu'en fait, on va faire porter la responsabilité de la gestion de la pénurie au corps médical. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une forme de défausse. C'est-à-dire que les directeurs vont se défausser, hein, ou une partie des directeurs ou des ministères vont se défausser sur les médecins en disant on va médicaliser la gouvernance de l'hôpital. Ce qui veut dire en gros que, eh ben, on va dire aux médecins, c'est vous qui allez gérer la pénurie et qui allez vous prendre les blâmes de la part des infirmières, des cadres soignants, des ASH, etc. Donc là, je pense qu'on n'en est pas à une question de l'organisation ou de réorganisation de l'hôpital, parce que de toute façon, l'hôpital est en réorganisation permanente. Ça devient même ridicule à quel point on n'a pas cessé de réorganiser l'hôpital au cours de 20 ans. Là, c'est l'idée de remédicaliser, si c'est ça l'objectif du gouvernement, remédicaliser la gouvernance de l'hôpital à cadre budgétaire inchangé, c'est un piège.
Je voudrais, parce que l'heure est en train de tourner, qu'on entende Alice, qui est jeune médecin, interne en médecine, et je suis assez curieuse de savoir non seulement ce que vous avez à nous raconter, Alice, mais surtout, aujourd'hui, comment vous envisagez aussi ce qui va se passer devant vous dans les 30 ou 40 ans de carrière qui vous restent. Bonsoir, Alice.
Oui, bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis interne en médecine générale. Et ce que je voulais témoigner aujourd'hui, c'est que nous, on a dû choisir nos prochains stages, là, ce mois-ci. On a changé de stage. Et à cause d'une erreur de l'Agence régionale de santé, certains services se sont retrouvés sans interne, notamment des services de pédiatrie dans Paris et en dehors de Paris. Et ce sont des stages qui n'ont pas été choisis parce que on peut lire dans les évaluations que les internes en font tous les semestres, que c'est des endroits où on reçoit les patients la nuit seuls, nous internes, hein, donc médecins en formation, on est des étudiants. Donc c'est grave que des patients puissent ressortir de là, de l'hôpital, sans avoir vu des seniors. Hein, grave pour le poids qui est sur nos épaules et pour la perte de chance que le patient a. C'est des stages où on travaille parfois 60 heures et 80 heures par semaine, un week-end sur deux, où on peut sortir à 20 heures ou 22 heures et qu'on est à 2 heures de transport de chez nous. Tout ça payé 7 euros brut par mois à Bac plus 8. Donc c'est des conditions de travail déplorables et l'Agence régionale de santé les connaît. Ce que je déplore, c'est que la réponse de l'Agence régionale de santé est qu'ils ont pu débloquer de l'argent à ce moment-là parce qu'ils avaient fait une erreur. Ils ont su débloquer de l'argent, ils nous ont proposé 500 euros brut par mois pour nous contraindre à aller dans ces stages. Aucun des internes n'a accepté. Aucun. Non. On est 500 personnes, ce que je comprends, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas une carotte pour nous forcer à aller dans des mauvais stages, c'est on veut une bonne formation. On veut que les hôpitaux puissent embaucher des médecins pour nous former. C'est pas aux internes de faire le travail des seniors, encore moins à 7 euros brut par mois, et avec les conditions de travail que je viens de vous citer et qu'ils connaissent.
Et Alice, je reviens à la question que je posais aussi tout à l'heure en introduction de la vôtre. Est-ce que vous avez envie, vous, de faire votre carrière de médecin hospitalier? Vous écoutez les gens autour, vous les avez vus dans la rue aujourd'hui, vous savez ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital, vous y faites votre formation. Est-ce que vous vous dites que c'est un endroit où oui, ça vaut le coup de rester? Honnêtement, est-ce que vous vous interrogez, vous, aujourd'hui, puisque votre formation n'est pas finie?
Absolument. Oui. D'ailleurs, ça a fait partie de mon choix. Moi, à la base, j'étais venue, je voulais faire chirurgien en médecine. Et quand j'ai vu les conditions de travail à l'hôpital public, que j'ai vu que ça allait me demander de rester le plus longtemps possible, donc c'est beaucoup d'années d'études à l'hôpital public, j'ai su que je tiendrais pas. J'ai su que je tiendrais pas et j'ai choisi médecine générale parce que je sais que je pourrais être libérale. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'adore le système de l'hôpital public, mais on peut plus y travailler. C'est-à-dire qu'on ne tient pas. Nous, c'est connu, les internes, 30% d'entre nous ont des idées suicidaires. C'est 4 fois plus que la population au même âge en France. Donc en fait, c'est pas tenable, on le sait. Donc j'ai fait le choix de changer de spécialité parce que je sais que j'aurais pas tenu.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Alice Anne-Léger. Vous envoyez passer des Alice dans votre service aussi, j'imagine. Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui, je le dis très sincèrement, à un jeune interne en médecine de faire une carrière hospitalière telle que l'hôpital fonctionne aujourd'hui? Est-ce que quand même, au fond de vous, il y a quelque chose qui dit on est en train de prendre ce problème à bras-le-corps, et si ces jeunes-là ne vont pas dans l'hôpital public, qu'est-ce qui va rester derrière? Alors, il y en a déjà beaucoup qui s'enfuient, autant que je, de ce que j'ai cru comprendre.
Je crois que compte tenu... C'est difficile de donner envie.
Ouais. Je pense que c'est difficile de donner envie. C'est mon quotidien. Je continue à me battre pour et je suis profondément attachée et à mon poste et à mon travail dans l'hôpital public. Mais c'est vrai que c'est compliqué vis-à-vis des jeunes. C'est compliqué aussi pour les former. Hein. Ça fait partie de nos missions, de la mission d'enseignement, d'être à leur côté et de leur apprendre. Et quand on est en train de courir partout, les internes ils commencent par redécouvrir qu'il faut être multitâche à l'hôpital, hein, c'est-à-dire répondre au téléphone pendant qu'on est en train de remplir un dossier administratif pendant qu'on est en train d'enseigner. Mmh.
27%, c'est un chiffre que j'ai glané ici, 27% des postes de praticiens hospitaliers sont vacants, oui. Faute de pouvoir trouver des volontaires, des futurs Alice, voilà. Au fond, Frédéric Pierru, faut-il aujourd'hui inciter ces jeunes comme Alice à rester dans l'hôpital public?
Les inciter, si vous voulez, ce qui est assez terrible, c'est le côté cercle vicieux, en fait, de la situation actuelle. C'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, les gens ont supporté des conditions de travail qui se dégradaient parce que, en quelque sorte, il y avait le bien-être du patient qui passait par-dessus tout. Et on voit se développer des formes l'éthique du soin et du service public a tendance à se corroder. Je vous donne un exemple très concret. J'étais dans un service de chirurgie et il y a une infirmière qui était là depuis des années et puis elle en a eu marre parce qu'elle a dit, dans des conditions de travail aussi dégueulasses, avec une paix, un pouvoir d'achat qui baisse. Hein, je rappelle que quand même, nous sommes 28e sur 32 pour le salaire des infirmières, hein, du pouvoir d'achat des infirmières. Ouais. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle a démissionné de la fonction publique. Voilà, elle a démissionné de la fonction publique hospitalière et on l'a vu revenir dans le même service, mais en tant qu'intérimaire. Beaucoup mieux payé en travaillant moins. Et voyez, c'est comme ça qu'on détruit aussi, parce que l'hôpital, c'est pas seulement des biens, c'est pas seulement du matériel.
C'est ça qu'on appelle les médecins mercenaires aussi.
Oui, alors
qui
ça développe le mercenariat, voilà, effectivement.
Les courtes missions.
Et ça détruit aussi les équipes, parce que le cœur de la qualité des soins, c'est la cohésion et l'interconnaissance dans l'équipe de soins. Or, le développement de des intérimaires, des contrats précaires, du mercenariat, etc., en fait, fait que les gens ne se connaissent plus. Et ça a inévitablement des répercussions sur la qualité des soins.
Est-ce qu'on a le temps de prendre Philippe rapidement, qui habite à Nîmes? Bonsoir Philippe, on vous écoute, Philippe.
Oui, bonsoir. Mais je voudrais, merci d'avoir pris mon appel, qui peut peut-être être un peu émouvant. Je viens de perdre ma maman dans des conditions très très ignobles et horribles. Alors j'ai entendu ce chef de service qui va quitter, qui disait que le grand public ne savait pas, malheureusement, moi je sais. Ma maman appelle son médecin traitant à 22h30, il décèle un problème cardiaque sévère, il l'envoie à l'hôpital Le Bar-le-Duc dans la Meuse, et puis on lui trouve juste une douleur gastrique, et tout le monde sait que les mamans, les personnes âgées et les femmes ont souvent des symptômes plutôt gastriques quand c'est un problème cardiaque, même moi je le sais. On lui trouve rien, on lui donne du Gaviscon, et à 2h30 du matin, on la remet dans une ambulance qui l'avait amenée. On la garde même pas toute la nuit, cette mamie de 80 ans. Elle rentre devant, c'est pas terminé, elle rentre chez elle, l'ambulancier la dépose comme un colis de la poste, et ils repartent. Elle met la clé dans la serrure, elle s'effondre devant la maison, on la retrouve décédée à 8h du matin, entre 2h30 et 8h du matin. Donc je viens de porter plainte pour homicide involontaire, et contre l'hôpital, et contre cette société d'ambulance, Meuse Medical Service, qui n'a pas fait son travail.
Une histoire évidemment terrible que la vôtre, Philippe, et merci de la partager avec nous. Anne Léger, moi, ce serait notre conclusion. Ce qui m'inquiète, est-ce que ça vous inquiète aussi, c'est que l'image de l'hôpital change aussi, l'image des médecins, quand on entend des témoignages comme ceux de Philippe et qu'on parle de gens qui sont pressés à courir dans tous les sens, que l'image et la confiance finissent par tomber?
Oui, alors je crois, malgré ce qui vient d'être dit, je crois que quand même globalement, pour l'instant, on est encore soigné et bien soigné, mais je crois qu'on est arrivé à saturation et je pense que c'est ça le cri d'alerte.
Et ce sera la phrase de conclusion. Merci beaucoup, merci pour vos très nombreux appels comme d'habitude et portez-vous bien.